Morgen Allemann, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Otazoï, le magazine de la culture yiddish d'RCJ. Lise Gutmann avec vous pour une émission spéciale consacrée au Midrash. Alors, pas n'importe quel Midrash, le Midrash laïque sous la houlette de François Hardeven, qui me fait l'amitié d'être mon invité. François, bonjour, good morning.
Bonjour à tous et à toutes, et même à celles qui, à ceux qui nous écouteront tard dans la nuit.
Bien sûr. Alors, François, on est ensemble pour un grand événement, et cet événement, c'est la sortie de... On se connaît, j'allais dire tu.
Oui, bah,
voilà,
vas-y.
On va se tutoyer.
Osons. On n'en conclura
donc,
rien.
Voilà. Donc, c'est pour la sortie de ton livre.
Oui.
Pour un Midrash laïque. Job, Jonas, Esther, Joseph. Un texte établi par Edith Applebaum et préfacé par Gérard Haddad. Alors, on va parler de ton livre. C'est un événement. On va expliquer pourquoi. Il vient de sortir et je suis ravie de pouvoir en parler à l'antenne. Mais avant tout, voilà, cette émission, bien sûr, est aussi celle du Centre Medem Arbetering, 52 rue René Boulanger. Je donne un téléphone, 01 42 02 17 08, éventuellement pour avoir un interlocuteur. Sinon, on laisse un message. Mais surtout, surtout, étant donné les conditions sanitaires, à l'heure actuelle, 98% des activités du Medem, qui est hyper actif en ce moment, je pense que je peux employer ce superlatif, est par Zoom. Et pour avoir accès au Zoom et aux activités, le mieux du mieux, c'est www.centre-medem.org, centre-medem.org. Et c'est là qu'on voit tout, c'est là qu'on sait tout, c'est là qu'on a toutes les infos. Alors, avant tout, ça m'arrive rarement d'avoir un collègue en face de moi du Centre Medem, donc je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe, parce qu'il y a un travail phénoménal qui se fait, qui s'opère. On a un grand public. On a tous remarqué que même si on était tous très malheureux du fait de ne plus pouvoir se voir en vrai, d'où le plaisir que j'ai de t'avoir réellement en face de moi aujourd'hui, eh bien, Zoom ouvre à un public qui, sans cela, n'avait pas accès à nos activités. Donc, je le rappelle, centre-medem.org.
Ma grand-mère disait toujours, c'est un mal pour un bien.
Oui.
C'était un viatique qu'elle utilisait.
Voilà.
Et donc, d'une certaine façon, c'est vrai, le Centre Medem reste un lieu, un makom, hein, mot si important dans la tradition. Mais que pour autant, eh bien, il est un peu extramuros. Et que c'est vrai que les circonstances extraordinaires que nous subissons pour le moment nous a permis aussi d'étendre, disons, nos contacts, nos liens, nos auditeurs. Nous en avons en Italie, en Allemagne. Et donc, effectivement, cela a permis à ce que nous faisons, et ce
bien
que
sûr.
Tu fais aussi, bien sûr, au centre, d'avoir une visibilité et une audibilité.
Tout à fait.
Plus grande. Mais j'espère que quand on aura réintégré une vie tout de même plus humaine, eh bien, nous saurons conjuguer deux opérations.
C'est ce qu'on souhaite. Alors, en hébreu, il y a une phrase, puisqu'on donne des cours d'hébreu au Centre Medem, Gamzo Letova.
Oui, voilà. Exactement. Mais ma grand-mère ne parlait pas complètement hébreu.
Oui,
mais toi, elle le pensait.
Mais toi, oui.
Mais
voilà.
Moi, oui.
Alors, ce Midrash laïque. Midrash laïque.
Oui.
Certaines personnes pensent que le titre est un peu antinomique.
Alors.
Comment est-il né? Comment est-ce que tout ça est arrivé?
Ben, tout ça est une longue histoire, puisque j'enseigne le Midrash laïque, et puis je reviendrai un peu sur ces deux noms, qui sont un peu, pas contradictoires, mais qui peuvent apparaître comme un peu un oxymore. Alors d'ailleurs, le livre que je suis très très fier de vous présenter, sur lequel on reviendra, a pour titre « Pour un Midrash laïque ». Alors commençons par Midrashé, leçon zéro.
Pour un Midrash laïque. Juste avant de Midrashé, je voudrais juste rappeler que tu es docteur en psychopathologie clinique et psychanalyse, que tu es philosophe, que tu as étudié les mathématiques et que tu es professeur de lettres classiques et psychanalyste.
Et actuellement, donc je suis responsable du grec ancien au CNED et je suis psychanalyste. Voilà.
Et puis, tu présides au centre, tu travailles pour le centre MEDEM où tu es le président ou le directeur, je ne sais pas comment
le
ça
président.
Le président de la commission culture, sans laquelle il n'y aurait pas toutes ces belles activités que je vous invite à retrouver sur le site.
Je préfère dire présider que diriger, parce que je ne pense pas que les Juifs soient facilement dirigeables. Alors, en revanche, ils peuvent être vaguement présidables. Mais diriger, ça, je pense que je ne m'y risquerai pas.
Oui.
Alors, je reviens à ce petit midrash zéro, première leçon, pour un midrash laïque. Alors, je dirais quatre choses. D'abord, puisqu'on est au bord de Pessah, on peut s'amuser dans Pour à entendre Pour du Pourim.
Oui, le sort.
Le sort. Donc, je viens ici tirer le sort du midrash laïque. Et dans ce choix du titre, imaginé d'ailleurs par notre éditrice, Marie-Jeanne Ozas, eh bien, je m'amuse à entendre déjà un peu d'hébreu dans le titre.
Oui. Bon.
Qui est aussi un titre, comment dirais-je, c'est une formule classique pour... D'abord, c'est un manifeste. En quelque sorte.
Bah oui, le pour.
Le pour. Et tu es pour le midrash laïque.
Ah,
oui,
complètement.
On est tous pour.
Oui.
Donc c'est un manifeste.
C'est un manifeste, presque un plaidoyer pour le midrash.
C'est un plaidoyer pour cet objet qui, au fond, n'existait pas vraiment.
Oui.
Et que grâce au Centre MEDEM, j'ai pu un peu inventer, et avec surtout tous ceux qui me suivent depuis 15 ans, ce qui constitue quand même une population large.
Très large. Et de plus en plus avec le Covid.
Et qui, pour la plupart, j'espère, sont devenus des amis. On vient un peu à MEDEM comme à une ruche.
Bien sûr.
De temps en temps, certains séjournent longtemps, certains deux jours, vont faire leur miel ailleurs, leur amène. Enfin, c'est une vie diasporique, de ce point de vue. Mais le midrash laïque, c'est vrai, est devenu un des piliers de cet endroit et on sait qu'il s'y tient. Moi, je me souviens d'un de mes amis, d'un de nos amis d'ailleurs, qui disait toujours « Ah, le midrash est à 10h le dimanche ». Oui, c'est une heure exigeante, je le sais.
Oui.
Mais ce n'est pas un divertissement de ce point de vue. Il faut vraiment se lever de bonne heure un dimanche par mois. Il me dit « Je ne viens pas, mais à 10h, je sais qu'il y a le midrash laïque ».
C'est
pas tout à fait comme y venir, mais enfin, c'est une manière de scander l'existence.
C'est exactement comme avec un psy.
C'est à peu près comme ça.
Et d'ailleurs, tu es psy.
Et d'ailleurs, je suis analyste, mais pour autant, je ne suis pas bien sûr. Enfin, peut-être que je soigne, ou enfin, je thérapeutise, enfin, tout un groupe humain.
Pour un midrash laïque. On vient d'analyser le pour.
Oui.
Quelques mots sur ce qu'est un midrash pour les auditrices et les auditeurs qui ne sauraient pas.
Je vais le dire de manière un petit peu précise, parce qu'après tout, je ne m'en explique jamais.
Oui.
Ce qu'on appelle le canon biblique, au fond, il est composé de quatre parties tout à fait étanches.
Mmh.
Grosso modo, vous avez dans l'ensemble du Tanakh, c'est-à-dire la Torah, plus donc les cinq livres, plus les Écritures, plus les prophètes, vous avez deux types d'écritures à l'intérieur, très repérées et très tôt. Par l'ensemble des commentateurs rabbiniques. Vous avez, en quelque sorte, d'abord ce qu'on appelle la littérature législative, la Halakha, donc l'ensemble de toutes les lois qui ont été données.
Oui.
Vous avez, y compris dans le grand, dans la masse considérable de versets qui nous sont parvenus, vous avez également ce que j'appellerais la partie des histoires, les agadotes. En voilà deux. Vous avez... une toute petite partie, mais essentielle, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la Halakha le Moshe Bessinaï, l'ensemble des lois orales qui ont été données et qui n'ont pas été rédigées.
Oui.
Et qu'ensuite, il a fallu mettre un peu par écrit, c'est le geste talmudique qui n'a d'ailleurs pas été accepté par tout le monde, l'oral devant rester oral. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a un tout petit... un ensemble plus courant qu'on appelle les matanot ktanot, qui sont l'ensemble des lois qui sont en quelque sorte en prévision.
Les petits cadeaux.
Les petits cadeaux, voilà. Qui sont en quelque sorte des lois de protection.
Pourquoi cet intérêt personnel pour le midrash, François ?
Alors ça, chaque année, je trouve une raison de plus pour justifier que je m'y intéresse. Mais enfin, disons que... Gérard Haddad m'a fait l'amitié d'écrire une belle préface, je trouvais. Et c'est vrai que le mot midrash... Alors, Gérard Haddad explique qu'il avait rencontré ce mot dans Lacan, puisque c'est dans une interview à la radio qu'un jour, on a entendu ce texte de Lacan, est une interview qui est maintenant rédigée. Lacan emploie le mot... l'émission s'appelait Radiophonie, c'est pas très original. Et on trouvait le mot midrash. Et ce fut pour Gérard Haddad une
révélation.
Une révélation. Bon, alors, je ne dis pas que ce fut tout à fait mon itinéraire, mais il est vrai que le mot midrash dans les livres de psychanalyse que je lisais apparaissait de temps en temps, et spécialement dans les livres de Gérard Haddad, puisque la psychanalyse était pour lui ce qu'il appelle très joliment l'enfant illégitime de la littérature talmudique. D'accord. Autrement dit, il y avait, comme on le sait chez Freud, une contradiction entre le fait d'être juif et le fait d'inventer la psychanalyse. Il ne voulait pas que ce soit une science juive. D'ailleurs, dès qu'un non-juif rentrait, si je puis dire, dans la cour freudienne, il s'en réjouissait.
Oui.
Et donc, j'ai trouvé que dans l'activité midrashique, dont je reparlerai tout à l'heure, eh bien, il y avait un moyen de lever une contradiction. On pouvait tout à fait s'intéresser au texte de la tradition hébraïque, qui me touchait depuis longtemps, tout en maintenant vigilant le geste analytique et la manière des associations libres. Et je trouvais qu'effectivement, Gérard Haddad avait raison. Et que moi-même, eh bien, j'ai poursuivi un peu son geste. Il vient d'ailleurs souvent au Centre Médem. Il y aura un midrash extraordinaire. Le 4 avril. Alors, il est extraordinaire pour deux raisons. D'abord, il est gratuit.
Il est extraordinaire,
c'est ça. Parce que l'année midrashique est consacrée à l'étude du golem et de l' ensemble de la littérature autour du cas du golem et du Maharal de Prague, dont j'étudie quelques textes cette année. Donc, extraordinaire, c'est un midrash en plus, un midrash supplémentaire. C'est le 4 avril, il est gratuit. Donc, vous allez sur le centre...
C'est
le 4 avril.
C'est dimanche 4 avril à 10h.
À 10h, donc vous inscrivez.
Et c'est par Zoom.
Centre-medem.org. Vous avez la présentation de l'ensemble des enseignements nombreux et des activités nombreuses du centre. Vous vous inscrivez et puis vous rentrez gratuitement dans un moment qui n'est pas publicitaire, mais qui est une présentation du livre et qui n'est pas une étude de l'espèce de celle que
je... Ce sera une présentation. Avec Edith Applebaum et avec Gérard Haddad.
Alors Gérard Haddad viendra, Edith Applebaum, nom très important, parce que voilà 15 ans que j'enseigne, alors je signalais là...
Mais comment ça a commencé? C'est ça que je voulais savoir.
J'ai été invité il y a très longtemps, plus de 15 ans, à faire une conférence au Centre Medem sur la tâche de Philippe Roth. Human Stein, pour nos amis yiddish après tout. Human Stein, A-J-N peut-être dans l'écriture de Ross. Et puis cette conférence a bien plu, et puis je me suis senti bien dans ce milieu que je connaissais finalement très peu, et au fond presque pas. Et on m'a demandé d'imaginer un enseignement, ou quelque chose qui ferait que de temps en temps je parlerais, et poussé par cette force mystérieuse qui est l'inconscient, le midrash a jailli. Et comme notre centre est laïque, nous y avons ajouté cet adjectif.
Voilà, c'est ça que je voulais vous demander, mais un midrash, c'est un midrash. Alors, François, on va faire une chose. Oui. Pessah arrive à grands pas.
Et comment ?
Et on va en profiter pour écouter des extraits du très bel album de Théodore Bickel, un projet qu'il avait monté avec 150 musiciens du New England Conservatory Orchestra, avec Enkous Netsky, qui était le directeur artistique, et ils ont fait des choses très déjantées. Alors, Dayenu, Dayenu, ça suffit. Il y en a ras-le-bol du virus, donc Dayenu. Mais là, c'est la version Diana, et c'est très déjanté et très amusant. Ça va nous faire du bien. Et on vous retrouve juste après ça.
À tout à l'heure.
Hotzianu mimitraim ilu hotzianu mimitraim velo safahem shefatim dayenu dayenu. Ilu, 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 ilu
הכללו את החכמן ולא נתן לנו את השבת דיינו דיינו
Dayenu, version Diana par le miracle de Théodore Bickel et de son projet A Taste of Passover que je ne traduirai pas. En revanche, surtout pour mon invité François Ardeven. François, juste avant qu'on reprenne, oui, je voulais remercier Daniel Tapia à la réalisation technique, bien sûr. Alors, cher François, on est ensemble pour un Midrash laïque.
Pour, voilà, disons-le.
Paru chez Imago, c'est le livre que tu viens d'éditer.
Oui.
Et ce livre est préfacé par Léopold Bronstein,
alors, oui,
et très joliment préfacé.
Alors, je reviens juste d'abord à l'organisation du livre.
Oui.
Donc, Gérard Haddad m'a fait l'amitié de faire cette préface très... voilà, très, très aimable, mmh, où il me reconnaît un peu comme quelqu'un qui a à peu près compris, je crois, son geste,
oui,
dans la psychanalyse et dans le judaïsme. Mais nous parlions du début de ce Midrash laïque. Ce que j'ai bien indiqué, je l'espère, que dans le corpus et dans la tradition juive, vous le savez sans doute, il y a une partie écrite, une partie orale. Il s'agit,
oui,
de ne pas mélanger l'oral et l'écrit.
Oui.
En sorte que cet enseignement, qui donc date d'il y a 15 ans, était vraiment voué à l'oralité. Je peux écrire d'autres choses à côté, mais là, c'était vraiment un enseignement oral. Et puis, bon, au début, se sont fédérées quelques personnes, puis un peu plus. Et puis, Edith Applebaum, qui appartient au Centre Médem, enfin, qui est
bien
actrice, d'une part, pour elle-même, voulant comprendre un peu mieux ce qui se disait, d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas toujours sûr de bien comprendre. Enfin, elle-même souhaitait avoir une trace pour elle-même.
Non, on ne fait pas de contre-publicité.
Non, non. Et pour elle-même, et puis peu à peu, avec une opiniâtreté qui est tout à fait ça, une de ses marques, elle a décidé, allant un peu contre mon avis au départ, de laisser une trace écrite de mon enseignement. Je souhaitais, moi, rester dans l'ordre oral. Et puis, elle m'a convaincu.
Elle a bien fait.
Son
bravo,
talent d'écriture m'a permis que ce texte soit, selon son beau mot, établi.
Mmh.
Je suis ensuite repassé par derrière. Et puis, elle-même, et on a, comme on dit en diplomatie, tuilé ce texte, et qui, maintenant, est un objet... qui, je crois, ne trahit pas la spontanéité de l'oral à laquelle je tiens plus que tout, ou plus qu'à tout, dans cet exercice midrashique, mais qui permet à chacun d'entrer un peu dans cet objet énigmatique, un peu, qui est le midrash.
Bien sûr.
Voilà.
La transmission par l'écrit, c'est quand même ce qui reste.
C'est indispensable,
voilà,
mais ne jamais oublier.
Oui. Il y a la Torah orale et la Torah...
Voilà, c'est important, c'est vraiment important.
Alors, François... une préface de avant-propos de Léopold Bronstein.
Oui. Oui, Léopold Bronstein, qui a dirigé le centre de 2008 à 2020, a accompagné avec amabilité ce geste un peu original dans le milieu, on va dire, socialiste.
Bien sûr.
Et en tout cas, la longue histoire du Bund.
Oui.
Hein, et donc, c'était un geste un petit peu marginal, provocateur, je ne dirais pas ça, un peu en marge. Et puis, peu à peu, grâce à lui, en partie, cet enseignement s'est institutionnalisé, s'est établi, pour reprendre la formule choisie, texte établi par Edith. Et bien, peu à peu, ce Midrash laïque s'est établi dans les habitudes du Médem et peut-être,
voilà,
un peu dans les habitudes de la communauté juive laïque,
bien
d'ailleurs.
Sûr.
Et quand
ou
je
pas,
dis juive...
ou pas,
ou
parce
pas,
que
voilà,
un Midrash, c'est un Midrash.
Oui,
donc,
c'est...
On parle forcément de la même chose.
Bien sûr, d'autant,
voilà,
que je me sers évidemment très abondamment de ce qu'on appelle les Midrashim, c'est-à-dire le recueil,
bien sûr,
de tous les Midrash, Midrash Rabba, qu'on appelle en général Rabba. Il y a Genèse Rabba, Shira Shirim Rabba, Ruth Rabba. Donc cet ensemble, ce vaste corpus qui a été écrit souvent après l'exil, et puis après le second exil, enfin dans le second exil où nous sommes tous, bien entendu, en hébreu, moi j'aime beaucoup ce mot en hébreu de laïcité, c'est-à-dire la riloniut. La laïcité,
c'est riloniut, bien sûr.
Qui vient de ralon, qui veut dire la fenêtre.
Oui.
Bon, et bien, la laïcité, c'est une fenêtre. Voilà, pour moi. C'est certainement pas une meurtrière, c'est pas une manière de s'opposer dans des combats inutiles.
D'ailleurs, la fenêtre du
studio la fenêtre est grande ouverte.
Et ça, c'est important.
Voilà, donc j'y pensais. Oui. Et donc, la laïcité, c'est la fenêtre. Et quand je vais au Centre Médem, 52 René Boulanger, où je te croise, Lise, je vois notre bel auditorium avec ses fenêtres qui sont ouvertes sur le boulevard Saint-Martin. Oui. Et quand on se penche un peu, pas trop, on tombe sur la place de la République.
Mais bien sûr.
Et donc, cette laïcité, pour nous, à Médem, c'est pas une revendication politique acharnée.
Non, parce qu'en fait, chacun y fait ce qu'il veut.
Chacun doit,
individuellement,
dans,
bien
dans
sûr.
Le grand château du judaïsme, eh bien, c'est une des fenêtres qu'il faut maintenir ouverte. Et
bien
je
sûr.
Pense que ce midrash laïque est une manière, une fenêtre ouverte sur les textes et qui a permis à beaucoup, quand même, de découvrir une tradition dont ils étaient familialement coupés.
C'est ça, voilà. Disons que laïque, parce que permet à des gens qui sont un peu éloignés de la tradition d'en prendre connaissance.
C'est ça.
Voilà. On est d'accord.
Et ensuite, chacun est libre de mener son chemin avec les textes.
Bien sûr. Alors,
donc, un merci à Léopold Brodstein.
Voilà, un merci, on l'embrasse. Alors, le livre commence avec Bereshit pour commencer.
Oui. Oui, il faut bien. C'est un peu banal de commencer par le commencement, mais enfin, dans la tradition hébraïque.
C'est très important.
C'est très commence. Et puis en plus, comme vous le savez, Bereshit, c'est un bête, et c'est donc pas la première lettre.
Non.
Puisque la première lettre est retirée.
Étant le Aleph.
Ce Aleph, cette respiration, ce coup de glotte, enfin, les hellénistes diraient cet esprit rude, un peu, ce qui permet de parler. Du reste, peut-être que Dieu, je n'en sais rien, n'a fait que ce petit coup de respiration par où le texte se lance. Donc oui, ce sont quatre études qui correspondent donc à quatre années d'enseignement. Donc, 4 années sur 15 sera peut-être...
Alors, que sont devenues les autres études ?
Eh bien, les autres sont...
Les 11 premières années.
Eh bien, ce ne sont pas les 11 premières années. C'est les 6e, 7e, 8e et 9e années.
Ah, d'accord, pardon.
Les toutes premières, comme je vous l'ai dit, le dispositif de mots avec Edith n'était pas encore au point. Et tout est resté dans l'oralité et dans mes petits cahiers où je notais mes idées.
D'accord.
Mais depuis 4 ans, le Midrash se dirige... On a étudié un peu les psaumes, on a étudié, c'est très important, le livre de Michael Walzer à l'ombre de Dieu, donc c'est un midrash qui s'autorise aussi une façon de commenter, d'inventer, d'interrompre.
Alors ça dure combien de temps ? 2 heures ?
Ça dure 2 heures avec une petite pause en temps normal, et c'est d'ailleurs la petite pause qui est la plus importante, puisque là, dans toutes les coulisses, j'entends toutes les idées fuser, et en général, la deuxième heure est la reprise, pas synthétique, mais enfin, de ce que j'ai pu entendre.
Bien sûr.
C'est une étude, c'est ça que je veux dire, c'est une étude, et donc une étude, c'est menée à plusieurs.
Oui, c'est ça.
C'est mené à plusieurs. Et donc, ça dure donc 1 heure plus une demi-heure, comme je dis souvent, avec une pause qui est l'occasion des rencontres, des histoires. Enfin,
bien sûr. Finalement, de la communication, de la rencontre.
Voilà, on dit dans la tradition juive que les histoires sont les mères de nos vies.
Oui,
voilà.
C'est
et
vrai.
Donc, maintenir l'histoire, et celle du Boun particulièrement, mais bien d'autres. Eh bien,
mais là, on n'en parle pas dans le Midrash.
Non.
Alors, on parle plutôt, par exemple, du livre de Job.
Mais j'ai choisi dans ces quatre leçons, j'ai choisi 4 figures.
Oui.
Job, Jonas, Esther, Joseph, un peu comme peut-être des rois ou des reines d'un jeu de cartes.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, je trouvais bien, pour ce premier livre, je l'espère, dans cet ordre en tout cas, d'avoir donné envie, non pas d'analyser, ce serait vraiment très prétentieux, 4 figures, mais de voir comment 4 humains, finalement, 4 humains comme nous, quel est leur problème. Voilà. En somme, chaque figure biblique pose un problème, et je ne dis pas qu'il le résout, simplement la vie passe. C'est-à-dire, ils arrivent à faire avec ce problème. Et donc, les 4 ont un problème, en quelque sorte.
Oui.
Et donc, ce que je proposais un peu comme fil rouge de ces 4 études, c'est qu'on regarde comment, finalement, le texte biblique est midrashique, donc comment la littérature midrashique que j'ai convoquée pouvait aider à mieux faire comprendre ces 4 psychologies, si je puis dire. Voilà. Celle de Job est connue. C'est une plainte qui ne se termine pas. à juste titre d'ailleurs, parce que la souffrance est très grande.
Bien sûr.
Et l'épreuve est absolue, mais aussi absolue que soit cette épreuve, elle doit être traversée. Je ne dis pas dépassée, je dis traversée.
Alors, comme Pessah, la traversée.
Comme Pessah. Bon, Job, peut-être que je peux dire un petit midrash sur Job.
Oui, même, bien sûr, alors, je ne sais pas si on a beaucoup de temps.
Une
mais
petite chose sur Job, c'est que la curiosité, que comme vous le savez, ses enfants ont été détruits, tués,
oui.
Et qu'il faut un énorme chemin, Job est le plus long livre de la Bible. Hein. Et alors, on dit parfois dans le Midrash que c'est parce qu'il n'était pas juif et que donc ça prend beaucoup de temps pour lui expliquer. Les livres où il y a des juifs engagés seraient plus courts. Avec les non-juifs, ça prend plus de temps, j'en suis pas certain. Et bon, Job,
moi non plus,
je vous donne un Midrash très beau, très beau.
Oui.
Donc, les enfants de Job sont donc tués. Bon, Job traverse les épreuves, la tempête, la déridiction. Il rentre en conflit avec Dieu. Dieu d'ailleurs n'est pas hostile au conflit. Il ne s'agit pas d'approuver toute la journée la création où on souffre tellement. Et puis à la fin, il finit par s'abandonner à la majesté de la création. Des enfants lui sont revenus, des filles. Et les filles reçoivent des prénoms. Autrement dit, ce que Job a appris dans ses très longs chapitres, 42, c'est qu'il fallait donner des noms aux filles aussi. C'est un des très beaux midrashim. Et Job, à ce moment-là, est émerveillé parce que les sujets sont réindividualisés. Alors qu'au tout début de Job, non, c'était les enfants.
Oui.
Eh bien non, les enfants ne sont pas les enfants. Les enfants, c'est un enfant et un enfant et un enfant. Et chacun doit recevoir un nom, les filles y compris. Donc c'est un midrash, je dirais pas féministe.
Mais presque, en tout cas, mais si. Pourquoi,
mais
pourquoi
la tradition
pas
juive, quand on la midrash,
oui,
est fascinante pour la place qui ont les femmes.
Oui, et ça c'est important
de le dire. C'est fondamental. Je veux dire que dans le moment que nous traversons, d'ailleurs avec curiosité et intérêt, où les femmes semblent vouloir, et à juste titre, exister dans l'espace public, nous, au Centre Médem, nous interrogeons parfois, parce que ça fait très longtemps que nous savons que les femmes sont exactement l'équivalent des hommes, et bien souvent, elles tiennent le sens.
Oui, c'est vrai.
Donc je salue d'ailleurs Hélène Papernick, notre nouvelle présidente.
Ouais, présidente, donc, et Denise et Dany.
Et Denise, voilà. Michel, Dany Lemonnier, et tant d'autres. Et qui tiennent, et dites elles-mêmes. Donc
oui,
je veux dire par là que la tradition hébraïque laisse, et quand on l'étudie très précisément, une place considérable au féminin. Et bien souvent, un des grands péchés, c'est d'en ignorer l'importance.
Mais bien sûr.
Alors, même dans Job.
Bien évidemment.
Même temps.
Bien sûr. Alors, donc, j'aimerais qu'on dise quelques mots. Peut-être juste avant, on va écouter un peu de musique.
Très bonne
et après,
idée.
OK pour parler d'Esther.
On va y arriver.
Hein? Et peut-être du secret, ça aussi, c'est très important. Alors, on va écouter un autre extrait de ce très bel album. Et là, ce qu'on va entendre, c'est le morceau 21, qui est à la fois en judéo-espagnol, en hébreu et en yiddish. Alors, si je dis François Echad Miyodea,
oui,
eh ben, c'est moi ça pro en yiddish et Kien Suspiense en judéo-espagnol. Bon. On écoute, c'est une très jolie version. Ah, oui.
Moa sapru moa davru oitcho oitcho yom tadariya Verken zong verken redden vos di eins batayit Vos di eins batayit Einer is Gott, in Gott is einer Und weiter keiner
Ken su piase antenjanse alevaro docreense Qualos an los dos Dos Moshe Yaron Uno es el creador Baruch hu Baruch Shemo
Shosha, shosha, shmiyo edeya, shosha ni yodeya, shosha, vos shnei luchus avis, echon elokeinu, sheba shemayim uvoretz, sheba shemayim uvoretz, sheba shemayim uvoretz.
Mua sapru mua davru aitku aitku yamdariya Ken zogen wer ken redden vos di vier batayit Vos di vier batayit Vier zene di imes und drei zene di oves Und zwei zene di liches Und einer is doch Gott Und Gott is einer und weiter keiner
Ken zu piase entengense alle varo docrense Qualos son los cinco Cinco libros de la ley Cuatro madres muestros son Tres padres muestros son Dos Moshe y Aaron Uno es el creador Baruch hu Baruch Shemo
Shisha, shisha, shisha mi yodeya Shisha ni yodeya Shisha sidre mi shno Shisha sidre mi shno camisciotto sei soro ad bavi mahos shasha ovos shenu kosabri echod 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 eloi kehenu shibasha mayim uvare
Mua sapru mua da vruoit kuoit kuyom tadia verken zogen verken redden was di simbatait sieben sind die Wochentag und sechs sind die Schneies und fünf sind die Chamushim und vier sind die Imes und drei sind die Uves und zwei sind die Liches und einer ist der Gott in Gott ist einer und weiter keiner
Kennst du Pierce and Tangence Alvaro Docre and Sequalo San Los Ocho Ocho Dias de la Villa Siete Dias con Shabbat Seis Dias de la Semana Cinco Libros de la Ley
Une très très belle version Moua Saprou en hébreu, en judéo-espagnol et bien sûr en yiddish avec la très chaude voix de Théodore Bickel. Vous écoutez Otazoï, le magazine yiddish d'RCJ, Lise Gutmann, avec vous mon invité aujourd'hui, François Hardeven, pour son livre, j'arrive plus à dire pour François, pour son livre, pour un midrash laïque paru chez Imago. Alors,
pour,
voilà. François, on s'est dit que ce serait pas mal de parler d'Esther.
Oui, puisque c'est l'actualité de nos fêtes. Alors,
oui.
Esther est la troisième des quatre figures.
Oui.
Alors,
on ne les prend pas dans l'ordre, c'est pas grave.
Non, ça n'a aucune importance. Oui. Il y a un petit sens, disons, mais oui. Adressé à moi-même peut-être et à la façon dont j'ai pensé, on pourrait dire l'évolution, c'est beaucoup dire. Disons ces problèmes comme une carte, enfin comme un jeu de cartes. Donc on tire la reine Esther.
Oui.
Alors.
Et on gagne.
Et on gagne avec Esther. On gagne d'une certaine façon parce que cette reine s'est aussi effacée. Je veux dire que elle a gagné sur le moment d'une façon très importante, mais elle appartient. Alors je vais vous lire ce petit midrash après tout. Vous le trouverez à la page 171 de Pour un midrash laïque,
oui.
C'est un extrait de Genèse Rabba, mais ça permettra aux auditeurs et auditrices de voir comment ça fonctionne, un midrash, si je puis dire. Donc là, c'est un commentaire d'un des midrashs fameux, Genèse Rabba, où une quantité d'histoires et de commentaires et d'allusions plus ou moins transversales, plus ou moins obliques, rendent compte. Et bien sûr, Esther, ce qui est intéressant aussi, entre autres choses, c'est la part du mystère, hein, qui est presque dans son nom au demeurant. Hein. On sait que si on midrash, c'est-à-dire si on change un peu les sonorités, soit les voyelles, Megillat Esther, c'est une des cinq Megillot.
Alors ça, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt.
Eh bien, Megillat Esther, si vous changez un tout petit peu les lettres de place et
oui.
Les sonorités comme...
Mais
comme
qui les change ?
Ah ça, c'est le commentateur plus ou moins inventif.
Donc c'est toi ?
En l'occurrence, non, c'est un midrash classique.
Ah d'accord.
Mais il m'est arrivé, je vous en reparle peut-être, on aura peut-être d'autres occasions, mais il m'est arrivé moi-même de modifier.
Changer.
Là, en l'occurrence, c'est un midrash classique, c'est-à-dire repéré dans le canon de l'ensemble des midrashim. Écoutons en hébreu. Megillat Esther devient, à quelques sonorités près, Gilui Mistor. Soit révélation du mystère.
Oui.
Donc c'est une façon, le midrash laïque, ou le midrash d'ailleurs, hein, sous sa forme laïque, puisque c'est moi qui le fais ainsi, pour reprendre le mot d'Emmanuel Lévinas, de solliciter, littéralement, le mot. Avoir de la sollicitude pour le mot, et avoir aussi une certaine sollicitation par rapport à lui. Donc Megillat Esther, Megillat Esther, oui, bien, essayons d'entendre. Il y a un grand principe dans la tradition juive, qui vient d'ailleurs du mot d'arache, qui est une variation de midrash, d'arrache, chercher, explorer, mais on dit parfois d'un mot d'archni, interprète-moi.
Oui.
Interprète-moi. Donc, dans la tradition un peu mystique, il y aurait quelques mots comme ça, et un certain nombre d'ailleurs, qui réclameraient l'interprétation. Donc, Megillat Esther, si on a une petite oreille midrashique, on finit par l'acquérir, on se dit, ah, cette expression un peu figée, et il me demande quelque chose. D'Arche, interprète-moi. Et donc, ben, moi, je l'entends et j'essaie, avec d'autres, et là, c'est un midrash classique, donc repéré comme tel, j'entends que c'est le Gilui Mistor. Voilà, Autrement dit, il s'agit de repérer quelle est cette reine cachée.
Oui, et vraiment cachée. C'était une des premières enfants cachées, presque.
On peut tout à fait le dire.
Oui, on peut le dire.
On peut tout à fait le dire. Et faisant des opérations dangereuses, risquées à la cour d'un roi impérialiste.
Donc, mais bien sûr.
Jusqu'où les Juifs, en quelque sorte, et les Juifs, peuvent-elles aller dans, entre guillemets, la collaboration, si je puis dire, pour le bon terme. Je veux dire qu'Esther est restée, de ce point de vue, est restée une des figures de l'audace politique.
Complètement.
C'est-à-dire ce qu'il faut faire parfois en termes de transgression, paraître, la cour, etc. Prendre des risques énormes pour sauver le peuple.
Mais bien sûr.
Et donc, elle apparaît de ce point de vue comme une héroïne. Mais, nous dit le Midrash, toujours un peu réaliste. Voilà ce que dit Genèse Rabba sur Esther. Rachel, donc, la vieille matriarche, si je puis dire, prit l'art du silence et tous ses fils furent des hommes du cachet. Benjamin, Shaoul, Esther. Benjamin était au courant de la vente de Joseph à ses frères. Joseph est la dernière étude du livre, mais n'a rien raconté. Shaoul ne raconte un point ce qu'avait dit Samuel. C'est dans Samuel, premier livre. Esther ne révéla ni son peuple, ni son origine.
Oui.
Autrement dit, ce secret de famille vient de ce vieux, très ancien retrait dans la genèse de Rachel par rapport à l'impériale Léa. Et donc, il y a toujours, et ça, c'est une des plus belles choses de la Bible, je crois, la victoire de ceux qui savent se retirer.
Oui.
La victoire des seconds. Ce n'est pas parce que vous êtes né avec le soleil que vous aurez une vie tout à fait ensoleillée.
Bien sûr.
Et qu'au final...
On le voit aussi dans l'actualité aujourd'hui.
Et les acteurs de l'histoire... En tout cas de l'histoire juive, et peut-être oui. Le peuple juif lui-même, est plutôt sous la protection de la lune que du soleil. Ce pardon à la lune. Vous savez, Dieu demande pardon à la lune parce qu'elle est plus petite et que Dieu aurait fait une grande place pour le soleil et que Dieu ne sait pas bien faire, c'est un midrash. Avec cette lune qui n'a peut-être pas tort de se plaindre de son traitement. Et donc Dieu demande pardon à la lune. Et donc pardon à toutes les créatures secondes. Car que c'est que cette création où il y aurait des premiers et des seconds, c'est insupportable.
Bien sûr.
C'est insupportable. Alors, l'étude, ce qu'on appelle le limoud, c'est essayer de saisir les fils de la fragilité. Et Esther est une des plus fragiles de ce point de vue et une des plus actrices aussi de la vie exilitique.
Bien sûr.
Donc, en cela, la fête de Pessah est extrêmement touchante, se souvenir de ce petit peuple-là, le plus fragile de tous, mené par Moïse, un illuminé, disait Freud, qui fictionne plus ou moins Dieu. Enfin, rien n'est sûr, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Et encore aujourd'hui, rue Claude Bernard, on parle de Moïse et de la traversée de la mer Rouge. C'est
oui,
bien cette fragilité extraordinaire que nous venons célébrer, le judaïsme. C'est une religion où le mot n'est peut-être pas convenable. Enfin, c'est un système, disons, un dispositif. Moi, j'aime énormément la définition que donne Emmanuel Levinas du judaïsme. C'est un dispositif pour lire la Bible.
Oui, c'est vrai.
C'est une formule. À la fois, on pourrait croire extrêmement cynique, ça n'est qu'un dispositif. Un truc. Et en même temps, non. Et donc, le midrash laïque, sous sa forme laïque, c'est un moyen, c'est un des dispositifs, il y en a bien d'autres, pour étudier la Torah et donc se pencher sur au fond sur les faibles.
Tout bien ça. Sûr, c'est vrai.
Les faibles qui agissent, évidemment.
D'où peut-être l'intérêt du Centre Médem pour ces textes que tu sais si bien nous expliquer.
Je voudrais lire ce que tu retires peut-être. D'où l'intérêt. Médem,
non, tu as raison, je retire peut-être. Et du coup, je vais nous faire un petit coup de pub.
Vas-y.
Parce que à propos d'Esther, on a quand même édité il y a quelque temps un très très beau livre.
Oui.
Et là, c'est pas Megillat Esther, c'est Itzik Megill.
Oui.
Et Itzik Megill, c'est la Megillah d'Itzik Manger.
Oui.
Il a repris les grands personnages de Pourim,
oui.
dont Esther, bien sûr. Et il en a fait une comédie musicale complètement folle dont nous avons édité à la fois les oui. partitions, les textes en yiddish, magnifiquement traduits en français par Bernard Weisbrot.
Oui.
Et c'est un livre extraordinaire à avoir chez soi. Et c'est la vision de l'histoire de Pourim oui. par ce grand poète visionnaire, d'ailleurs, qui était Itzik Manger.
Oui.
Donc voilà, ça on le trouve au Centre Médem.
Oui.
Alors justement, ton livre
oui.
qui vient de sortir... Pour un midrash laïque, comment peut-on se le procurer? Ça, c'est important.
C'est
parce
important.
Que nos auditeurs vont avoir envie de
me... Je l'espère voilà. que j'aurais donné envie de
oui.
participer du culte de la faiblesse.
Mais oui.
Et donc de cette forme d'humanité que nous traversons tous. Alors, ce livre, pour Amir Drajaïk, je veux dire, je rends hommage encore une fois à mon éditrice Marie-Jeanne Ozas, qui a assuré une distribution remarquable. Il a la diffusion des anciennes puffes. Et donc, vous le trouvez dans les librairies à Paris.
Vraiment,
il y en a...
C'est Imago, édition
c'est
Imago.
Vous le trouvez dans les librairies... Je ne veux pas faire de publicité, mais vous le trouvez dans les grandes librairies parisiennes. Vous le trouvez également en province, pour ceux qui seraient en province. Et soit vous le commandez, mais enfin, je pense que vraiment, la diffusion est grande. Moi, je vais chez ma libraire habituelle, rue Rambuteau, on ne dira pas que c'est chez Colette. Et eh bien, je constatais avec un grand plaisir qu'il y avait au moins 5 ou 6 exemplaires.
Ah, super, merci Colette, on l'embrasse.
Et que ça me réjouit en compagnie de d'autres auteurs du judaïsme, et j'étais très flatté, très fier, bien sûr, que ce livre soit à ce point-là diffusé comme un potentiel manuel, parce qu'il y a ce côté-là dans ce livre. Je reste un professeur, tu l'as dit tout à l'heure.
Bien sûr.
Et donc, je pense que c'est un manuel, un usuel du Midrash, et si vous avez un problème de Midrash, ça peut arriver, après tout.
Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont un problème de Midrash.
Non, mais ceux qui auraient un problème de Midrash, hein, une sorte de Midrashite, enfin, une Midrashie, une lombalgie du Midrash, hop, vous ouvrez pour un Midrash laïque, et la réponse s'y trouvera très probablement. Il est bien diffusé, mais par ailleurs, plus sérieusement, vous pouvez le commander depuis le site du Centre MEDEM, et donc vous le commandez, il y a un système de PayPal, j'imagine.
Oui, centre-medem.org. Voilà. Je vous ai dit, il y a tout dessus.
Et le livre vous sera probablement, soit vous venez le chercher au centre, ça nous réjouira quand nous pourrons nous revoir, et sinon le commander, je crois que le centre assurera la distribution par la poste.
Alors, on a aussi un grand projet au centre que tu vas orchestrer. C'est quand tout ira mieux et ça finira par aller mieux et qu'on pourra à nouveau se rencontrer. C'est inviter tous les auteurs qu'on aura reçus par Zoom pour qu'ils puissent venir dédicacer leurs ouvrages. Oui. En fait, on fera un petit salon du livre version MEDEM.
Voilà. Alors, MEDEM reçoit tout de même beaucoup d'écrivains.
Beaucoup. On est très attachés au livre.
On a reçu cette année, je vais donner quelques exemples, que les autres ne soient pas vexés, c'est juste quelques exemples.
Oui, bien sûr.
On a reçu André Markovitch pour sa nouvelle traduction du Maître et Marguerite de Bulgakov, Actes Sud. Nous avons reçu Camille de Toledo pour son livre Thésée. On a reçu Rosie Pinhas-Delpuech
pour son livre.
Pour son livre et l'ensemble des... Bon, beaucoup d'écrits.
Et puis, aussi Robert Bobert.
Aussi Robert Bobert. Et puis, c'était Michel Taubert qui l'avait magnifiquement interviewé. Et donc, est prévu...
Et beaucoup d'autres.
Et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Je reçois Marna Shirali, l'iranologue, et pour son livre Une jeunesse iranienne. Donc, vous voyez, c'est extrêmement ouvert. Et normalement, il y aura 2 jours. Alors, vous pouvez peut-être le noter déjà, c'est le samedi 5 et le dimanche 6, en principe, juin, où les écrivains pourront venir signer et dédicacer...
5 et 6, quoi ?
5 et 6 juin.
Ouais, on n'est pas sûr. Hein.
On n'en est pas sûr, mais en tout cas, nous avons ce projet ferme. Oui. Si ça n'est pas possible en juin, ça se fera en septembre.
François, on en reparlera.
Ah,
Oui, bien sûr. Alors, ce que je voudrais, François, c'est qu'on écoute une très belle chanson maintenant, très symbolique, Pessah arrivant. On va écouter un extrait et puis après, tu nous midrasheras un dernier petit chapitre.
Un dernier petit chapitre.
Voilà. Alors, on va écouter un extrait du nouvel album exceptionnel de Noémie Weisfeld. Ça s'intitule Soul of Yiddish et je crois que le soul y est, l'âme du Yiddish est vraiment au sein de cet album. Et on va écouter sa très belle et très originale version de Donna Donna. Pourquoi ai-je choisi Donna Donna ? Parce que c'est quand même l'histoire de ce petit veau qui est entravé, qui voudrait être libre et dont le paysan se moque en lui disant « Mais tu n'avais qu'à choisir d'être une hirondelle et tu t'envolerais dans le ciel en chantant comme si on pouvait choisir. » Et comme on est à Pessah où on passe évidemment de l'esclavage à la liberté, j'ai trouvé que ce chant était hautement symbolique. On écoute Noémie Weisfeld, Donna Donna.
Fünf Uhr euch im Himmel flieht der Schwäbel, freut sich, dreht sich hin und krieg. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Kobatoga ganzen Mittag, halbe Nacht. Dona, 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 schreit das Kälber, sagt der Bäuer, heißt dir seiner Kalb, Wals kehrt zu seiner Freude, Wals kehrt zu seiner Schwalb. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht.
Vous écoutez Otazoï, le magazine de la culture yiddish d'RCJ. Isamiel Gutman, avec vous, mon invité aujourd'hui, François Hardeven, pour son livre « Pour un Midrash laïque, Job, Jonas, Esther, Joseph », un texte établi par Edith Applebaum, préfacé par Gérard Haddad, avec également, en avant-propos, un très beau texte de présentation de Léopold Bronstein, et c'est aux éditions Imago. Alors, François,
oui.
Un dernier petit commentaire midrashique.
Un petit commentaire midrashique, voilà. Et puis ensuite, peut-être, tu évoquais l'endroit où on pouvait acheter
on en reparlera.
Alors,
après.
Un petit midrash que j'aime beaucoup, alors que je tire du livre de Jonas. On ne sait pas encore qui pour, mais on peut y penser. Vous avez dans le texte du livre de Jonas deux occurrences du mot « dag », qui veut dire « poisson ». Mais curieusement, dans un cas, c'est « dag », le poisson, et dans un autre cas, c'est « daga », avec un « e » qui signifie le féminin. Donc autrement dit, la vraie histoire, c'est que Jonas est avalé par un poisson, et ça ne suffit pas, ça n'est pas suffisant pour que Jonas comprenne qu'il a une part dans l'univers et une part seulement. Ce dona-dona, enfin ce veau qui doit apprendre qu'il est un veau, c'est pas de chance parfois.
Oui.
Et accepter qui on est toute une affaire, malgré
mais
tout.
Oui.
Et
mais
donc, ce Jonas, qui est le fils d'Aminaï, qui veut dire la vérité, est littéralement emporté par l'impression qu'il a d'avoir la vérité. Or, la vérité n'est jamais une. Seul Dieu est un, le rappelle Maïmonide sans cesse. Il est avalé par un poisson, mais recraché. L'opération n'a pas bien marché. Alors, de nouveau, et c'est ça, le midrash vient là, il n'y a pas qu'un poisson, en somme, puisqu'il y a deux occurrences. Il y a aussi une poissonne. Et dans la gueule de cette poissonne, il y a plein de petits alevins. Et là, j'allais dire Eureka, en marchant sur les pas de la Grèce, Jonas comprend qu'il est un parmi d'autres. Mais c'est pas par le masculin ne lui suffit pas. Il a fallu qu'il passe par la poissonne, la daga, et qu'il découvre autour de lui tous ces petits alevins et se découvre un parmi d'autres. Se découvrir un parmi d'autres et se découvrir soi, soit quand même un être un peu limité dans la création, et souvent l'opération biblique. Et le Midrash a toujours cet horizon de faire accepter, au fond, à tout le monde qui il est. Ça n'est, au fond, pas si mal.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Oui. S'il y avait une morale midrashique, alors, ce sont d'abord des histoires.
Pour tout le reste, un très, très beau livre de, on va dire, presque 250 pages.
Oui.
Et ce livre, donc, on a dit qu'on le trouvait dans tous les bacs, dans toutes les librairies, qu'on
oui.
peut le commander aussi au Centre Médem 52, oui. rue René Boulanger, centre-médem.org.
Oui.
On va sur le site, il y a tout. Mmh. Mais également dans des grandes librairies parisiennes, comme par exemple, on ne fait pas de pub, mais on les remercie,
oui.
chez Colette. Et puis également, rue des Rosiers, notre beau quartier, à la librairie du Temple.
Enfin, à la place du Pletzel.
Oui.
La librairie du Temple, qui est donc une librairie juive religieuse,
oui.
eh bien, je
mais
suis,
pas, ce, oui,
mais pas seulement, mais
juive, tout
juive,
simplement.
Mais je suis très honoré que le titre laïque n'ait pas fait peur à nos amis libraires, que je
oui.
connais depuis longtemps.
À la famille Manichevert.
À la famille Manichevert, je salue. Et donc, on trouve ce livre également à la librairie du Temple, donc en face de chez Marianne. Et je voudrais juste rajouter un tout petit encart, pour ceux qui seraient intéressés, j'écris tous les trimestres un ou deux articles pour la revue remarquable des éclaireurs israélites,
oui.
L'éclaireur, et ce n'est pas exactement du Midrash, mais je continue mon geste biblico-freudien, disons, et une fois par trimestre, une ou deux fois par trimestre, j'écris un article dans l'éclaireur. Cette semaine, là, je viens de finir un article sur Léo Strauss,
oui.
et puis la chronique du mois de juin sera consacrée à la maman, si je puis dire, de Samuel, c'est-à-dire Rana. Voilà.
Eh bien, François, je n'aurai qu'un mot. On attend la suite, parce qu'il y en aura une d'ici à 2 ans. Donc,
peut-être.
On a le temps, on espère. Comme on dit, c'est Blinéder. Voilà. On espère. Et en tous les cas...
Et on vous attend nombreux au Centre Médem.
Bien entendu. Voilà. Pour un Midrash laïque, François Hardeven, on va se quitter avec une autre très belle chanson de Noémie Weisfeld, « Leig dein Kopf ». Et pose ta tête, sur etc. Et voilà. Et l'émission est terminée.
Moi, merci
je vous
à toi, Lise, de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Je vous retrouve dans 15 jours. Et encore, merci à Daniel Tapia.